Studio Tamani, voici les informations en français.
Studio Tamani, s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Vous écoutez le programme de Studio Tamani sur les ondes de ses radios partenaires. Il est 18h, le titre de cette dernière édition de la journée. Plus d'une soixantaine de morts et de blessés dans l'effondrement d'une galerie sur un site d'orpaillage à Kobadani dans le cercle de Kangaba. Une mission d'évaluation s'est rendue hier sur le lieu pour constater les dégâts. Les parents de 30 enfants enlevés depuis avril 2023 dans le cercle de Gourmararous sont toujours dans l'inquiétude. Ils demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour leur libération. Cannes Côte d'Ivoire 2023, le Mali joue actuellement contre la Namibie dans le cadre de la troisième journée. Les Aigles déjà qualifiés pour les huitièmes de finale cherchent à rester leader du groupe E. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Imirana Kilomaïga à la mise en onde de Mamadou Ouattara. Bonsoir à toutes et à tous. L'effondrement d'une mine artisanale a fait ce vendredi 19 janvier au moins 60 morts à Kobadani, dans le cercle de Kangaba, région de Koulikoro. Ce bilan provisoire a été donné par des sources locales. Sur place, les opérations de secours se poursuivent pour extraire le corps. Une délégation du gouvernement s'est rendue également sur le lieu du drame. Intala Akbilal pour plus de détails.
L'évolution des opérations de recherche des victimes se poursuit et une mission d'évaluation du département des mines et de la chambre ainsi que les autorités administratives se sont rendues sur le site du drame, peut-on lire dans le communiqué du gouvernement. L'incident s'est produit alors que de nombreux mineurs et autres travailleurs se trouvaient encore sous la mine, ont indiqué des responsables de la jeunesse de Kangaba. Selon eux, les opérations de secours se poursuivent encore pour retirer les corps de débris. Ils affirment qu'à ce stade, 60 corps sans vie ont été déjà retrouvés et les recherches continuent. Dans le communiqué du gouvernement, le ministre des Mines a invité les communautés vivant près des sites miniers et les orpailleurs à un respect scrupuleux des exigences de sécurité et à travailler dans les seuls périmètres dédiés à l'orpaillage. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à l'éboulement des mines dans le pays. En décembre 2022, une vingtaine de personnes, dont la moitié sont des femmes, ont trouvé la mort sur les sites d'orpaillage de Siribaya dans le cercle de Kenyeba.
Cette mine artisanale a été exploitée illégalement et sans aucun respect des normes et les mineurs opéraient sans équipement de sécurité adéquat, rendant les conditions de travail très dangereuses, expliquent des sources sur place. Elles indiquent également qu'hier à aujourd'hui, le bilan a évolué. Drissa Diawara est le vice-président de l'association des orpailleurs de Kobadani et le joint par Fatih Attara.
La mine s'est effondrée le vendredi vers 14h. Entre les samedis et les dimanches, on a essayé d'évaluer les dégâts. On a pu enregistrer 71 morts. Beaucoup de morts sont sous terre. Il y a un moshi sur le site. Lui seul a perdu plus de 20 personnes. Un autre a perdu plus de 13 personnes. Mais la majeure partie des victimes sont des Maliens. En réalité, il a été demandé aux miniers de quitter le site depuis très longtemps. Donc la mine est devenue très molle, fragilisée par les activités, et elle a fini par céder. Les recherches sont en cours. En plus, les ministres des mines, le commandant ainsi que les maires ont effectué une visite ici.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Les incidents sécuritaires se sont produits cette semaine dans le haut nord et au centre du pays, à Teguru et Andakanda, dans le cercle de Bandiagara. Des hommes armés ont sémé la terreur. Des obis sont également tombés dans la ville de Tombouctou sans faire de victimes. Le point de la situation sécuritaire avec Moussa Agmahaha.
Le mardi 23 janvier, aux environs de 11h, la ville de Tombouctou a essayé des tirs d'obus lancés par des terroristes. Ces tirs n'ont fait aucune perte en vie humaine ni dégâts matériels. Le communiqué de l'état-major général des armées ajoute que des enquêtes sont en cours pour localiser les pas de tirs et rassure que les auteurs de ces actes lâches seront dénichés. Dans la journée du lundi, l'armée rapporte que les vecteurs aériens ont procédé à une frappe chirurgicale à 5 km au sud-est de Labzanga. Elle a permis de neutraliser au moins une dizaine de terroristes et détruire une quantité énorme de matériel de guerre. Au centre du pays, les villages de Teguru et Andakanda dans le cercle de Bandiagara ont été attaqués le samedi 20 janvier par des hommes armés non identifiés. Selon des témoins, 5 personnes auraient perdu la vie à Teguru et une autre à Andakanda.
L'enlèvement des enfants est devenu récurrent dans le nord du pays. Au mois d'avril dernier, au moins 30 enfants ont été enlevés par des individus à moto et à bord de véhicules. Ces enfants capturés à Inabelbel et Ingasan, cercle de Gourmararou, se sont enlevés pour des fins en lien avec la traite des personnes ou l'esclavage, selon leurs proches. Alassane Agayouba est l'un des parents des victimes. Il est joint par Fatih Yattara.
Ces individus viennent en moto et souvent à bord de véhicules. Certains mettent les armes sur les tempes des villageois, d'autres se mettent à prendre les enfants de force pour les mettre dans les engins. Les villageois, n'ayant aucune arme ni autre moyen, sont réduits au silence. Le nombre des enfants enlevés est bien supérieur à 30. La dernière scène, c'était dans mon hameau. Quand ils ont tenté d'enlever ma nièce, son oncle a protesté. Lorsqu'ils ont braqué le fusil sur lui, sa maman a crié et a intercédé pour lui demander de les laisser partir avec la fille. On a alerté les autorités pour retrouver nos enfants, mais rien n'a filtré jusqu'à présent.
Le journal de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
Au compte de la troisième et dernière journée de la phase de poule de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali et la Namibie s'affrontent au stade Laurent Poukou de Saint-Pétro. À la première mi-temps, le score reste de 0-0. Premier après la deuxième journée avec 4 points, plus 2, le Mali joue pour gagner et rester leader de sa poule parce que c'est là à son avantage. Nous retrouvons Zamongon à Abidjan.
Le premier avantage est que le Mali aura évité le premier de la poule F composé du Maroc. Déjà premier après deux journées de la RD Congo, de la Tanzanie et de la Zambie. Une fois premier de leur poule, les Aigles du Mali affronteront le deuxième de la poule D basé à Bouaké. Cette poule est composée de l'Angola, premier pour le moment, suivi du Burkina Faso deuxième, de l'Algérie troisième et de la Mauritanie quatrième. Encore une fois, si le Mali arrive à terminer premier de la poule E, les Aigles reviendront jouer leur huitième de finale à Korogo, là où ils ont commencé la compétition. Ce sera donc un bonus pour les protégés d'Éric Sékou Chèle, parce qu'à Korogo, il y a une forte communauté malienne. Ce n'est pas tout, Korogo est seulement distant de Bamako de 550 km environ et partage la frontière avec le Mali, donc relativement facile à rallier pour les Maliens afin de donner de la voix aux Aigles. Zamongon à Abidjan pour Studio Tamani.
Alors qu'elles étaient 24 au coup d'envoi, il n'y aura plus que 16 équipes pour les huitièmes de finale. Le Mali, dans le groupe E, a déjà assuré sa qualification. Mais pour le consultant sportif Souleymane Bobo Tunkara, une victoire du Mali contre la Namibie ce mercredi permettra aux Aigles d'affronter un petit poussé aux huitièmes de finale. Il est au micro de Intala Akbilal.
Non, déjà la qualification elle est garantie. Hein. Le Mali même avant de jouer, tout comme le Maroc, sont déjà sûr de terminer au pire parmi les meilleurs troisièmes avec 4 points. Ça c'est déjà acquis. Maintenant, l'objectif du Mali maintenant c'est de gagner le dernier match pour terminer premier et rencontrer soit un deuxième ou un troisième d'une autre poule. Si on termine en troisième position, ça va être compliqué parce qu'on va rencontrer soit le premier d'un groupe ou alors le deuxième. Et, mais si on termine à la première place comme je le disais tantôt, ça sera un troisième ou un deuxième. Donc, tout l'importance du dernier match, il faut terminer premier de son groupe pour ne pas affronter un premier de notre groupe.
Suite à la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale sur le score de 4-0, des supporters se sont prononcés. Il s'agit des Ivoiriens résidant au Mali, de Tombouctou à Sikasso, en passant par Kadiolo, Ségou et Bamako. Leurs avis sont divers. Ils sont au micro de Mamadou Samasekou avec la collaboration de nos correspondants locaux.
4-0, c'est pas normal. Je suis pas content. Voilà.
La fête continue. Bon, maintenant, ils doivent quand même se ressaisir et puis éviter ces genres d'humiliation, quoi.
Vraiment, j'étais déçu. Très déçu même. Je voulais qu'on change l'entraîneur. Si c'est possible, fédération même.
Sincèrement, j'ai été très déçu. Mais les grandes défaites, ça envoie beaucoup de victoires encore. Je sais que ça va laisser le bête à Dieu.
Sincèrement, moi, je suis pas déçu. C'est le foot.
Ils ont joué, mais ils n'ont pas eu la chance de gagner.
On ne s'attendait même pas à une défaite, mais ils étaient jusqu'à 4-0, là, vraiment. Du coup, nous sommes sous le choc. Parce On ne s'y attendait pas.
Ivoirien, ce sont des supporters mazo. Même si on nous frappe, on s'en est derrière. Découragement n'est pas ivoirien. Donc on attend toujours.
On ne pouvait pas ne pas les supporter, mais vraiment l'équipe n'était pas au top. Et sachez que toutes les nations se valent maintenant en football.
La CAN en une anecdote nous parle de Thomas Nkono, l'entraîneur des gardiens du Cameroun, arrêté par la police malienne. L'incident s'est déroulé à la CAN 2002, quelques heures avant le duel de la demi-finale opposant le Mali, pays hôte, au Cameroun. Idrissa Sako.
Nous sommes à près de 3 heures avant le match du Mali contre le Cameroun. Une ambiance surchauffée régnait au stade du 26 mars. L'entraîneur allemand Wilfried Schaeffer et l'ex-gardien du Cameroun Thomas Nkono sortent des vestiaires. Ils pénètrent sur la pelouse. Sur le champ, des policiers foncent sur eux, les entourent. Très rapidement, le colosse Thomas Nkono est immobilisé, menotté au poignet. Selon des témoins, il aurait été tabassé. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet incident? Au stade du 26 mars, les spéculations vont bon train. Certains parlent de gris-gris que le staff camerounais tentait d'enfuir sous le gazon. D'autres vont plus loin en affirmant que c'est une tête de chien que Thomas Nkono a voulu enterrer au sein du stade. Vrai ou faux? Cette histoire reste un mystère jusqu'à présent.
Nous recevons actuellement Sekou Gadjigo pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Sekou.
Bonsoir Imirara.
Quel thème sera débattu?
La lutte plus qu'un sport au pays d'Ogo, c'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Et c'est à la faveur de la 9e édition du festival Ogobania qui se tient depuis lundi sur les berges du fleuve Niger. Nos invités sont Modibo Sango, secrétaire général de la Ligue de lutte de Bamako, Bourayma Ongoïba, président de la Fédération nationale de lutte du Mali, et Drissa Guindo, ancien lutteur.
Le débat est réalisé sur le site de Ogobania et c'est en langue bamanankan. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour un autre journal.
J'ai fait une crise d'anévrisme, ça m'a coûté une intervention à la tête. Depuis que j'ai commencé à faire ce sport, Dieu merci, aujourd'hui je me sens bien. Je travaille même à plein temps.
J'avais fait un AVC, pratiquement tout va très bien à cause du sport. Je marche, je fais des haltères, je fais des abdominaux.
Je suis diabétique hypertendue. Depuis que j'ai commencé à faire la marche, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Je remercie le bon Dieu.
Et j'ai des douleurs au dos quand je laisse pendant plusieurs mois. Mais quand je reprends, ça finit.
Ce sont là des témoignages des malades qui ont retrouvé la santé grâce à la marche. Pour eux, le sport est un espoir pour prévenir le diabète et l'hypertension artérielle. Il soigne aussi certaines maladies. Des propos corroborés par des travailleurs de différents secteurs à Bamako, Yelemani, Yoroso et Gao. Des habitants soulignent que la marche à pied permet de réduire le stress et la pression. Toutefois, certains ne pratiquent pas ce sport même si ils sont conscients de ses bienfaits.
Donc, en tant qu'habitant de Yoroso, je marche chaque matin. Donc, pour entretenir ma tension, quoi. Voilà, une heure de marche chaque matin. Voilà, l'important, c'est que ça permet aux personnes âgées de se maintenir.
Parce que moi, j'avais pris un peu de poids encore. J'avais aussi gros ventre. Maintenant, depuis que j'ai repris, le ventre a effondré. Je suis à l'aise.
Pour maintenir la forme. Bon, j'ai un peu maigri. Puis aussi, la santé, ça va maintenant beaucoup mieux.
C'est pour maintenir la forme. Après long travail au bureau, il y a trop de pression. Bon, je me plains beaucoup.
Pour avoir été atteint de tension, mon médecin m'a recommandé de pratiquer la marche comme sport. Mais malheureusement, je n'arrive pas à le faire.
Pour la santé, c'est pour maintenir la forme.
Que c'est un bénéfice inestimable. C'est pour maintenir la forme. Depuis 14 ans, je suis là.
Docteur Boubacar Cissé est cardiologue. Il estime que la marche est l'un des meilleurs sports pour le métabolisme. Pour lui, elle booste non seulement le système immunitaire, mais élimine les toxines du corps tout en prévenant d'autres maladies.
La pratique sportive a un effet sur la qualité du sommeil, a également un effet sur le renforcement musculaire et de lutter contre le vieillissement et la fonte. Ça va booster le système immunitaire. Ça lutte contre les artéropathies oblitérantes des membres inférieurs, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance veineuse, les hémorroïdes, le diabète, entre autres. Ça permet de lutter également contre l'arthrose.
Il n'y a pas une vie en bonne santé sans le sport. Soutien des coachs sportifs. Pour eux, la marche garantit le bien-être et galvanise le corps. Écoutons respectivement Oumar Kanté, dit coach Miguel, et Nyamakoro Jara.
Le bien-être que moi j'ai, il n'y a pas un médicament sur terre qui peut te donner ce bien-être-là, à part le sport. Et puis je suis tranquille dans ma tête. Et puis le sport, c'est le meilleur médicament pour le stress.
Oui, je suis déjà employé ici, à peu près 13 ans plus tôt. Maintenant, après la descente, chaque soir, j'essaie de monter à la colline, je fais du footing. Quand tu fais le sport, tout le corps est ressent et l'esprit aussi est tranquille. C'est très bien pour la santé.
Cependant, la marche est aussi un antidouleur, antidépresseur, indiquent les spécialistes. Des médecins recommandent aux personnes âgées 30 minutes de marche par jour à une vitesse d'au moins 6 km à l'heure pour maintenir la santé.